L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui laboure, aujourd'hui on laboure hein, dans le Finistère. C'est la 9e saison de l'EM. Ce lundi c'est archéologie avec nos partenaires et voisins du Centre départemental d'archéologie au Fou. C'est un organisme du conseil départemental avec de vrais archéologues dedans qui mènent différents travaux. Parmi ces recherches il y a les diagnostics avant d'éventuelles fouilles. On examine rapidement un terrain, son intérêt potentiel archéologique. Il y a aussi les fouilles dites préventives qu'on réalise avant les aménagements contemporain. Et puis il y a les fouilles qu'on dit programmées, les plus exaltantes sans doute, car elles seront longues, approfondies. On reviendra sur le terrain chaque année. Le Centre départemental d'archéologie en mène encore deux, à la Villa antique du Pérennou à Plomelin, au château de Roquemorvan à La Roche-Maurice. Là, c'est le domaine de notre invité qui est médiéviste, archéologue spécialisé dans le Moyen-Âge, qui a aussi participé pendant plusieurs années à d'autres fouilles programmées, désormais terminées, celle de l'ancienne abbaye de Landévennec. C'est elle qui sont le sujet de notre émission. Bonjour Ronan Perennec.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler, quand même on est obligé de rappeler ce qu'est cette abbaye absolument exceptionnelle, même si elle est en ruine?
Oui, enfin, il y a des beaux restes.
Oui, quand même.
Non, c'est une abbaye bénédictine qui a été implantée à l'embouchure de l'Aulne, dans le front de la rade de Brest, en fait.
Elle a été implantée en 500, c'est ça, à peu près?
Alors voilà, à peu près, quoi.
Et jusqu'à?
Au début au tout début du 5e siècle.
En fait. Elle a duré longtemps, c'est ça, en fait, l'intérêt?
Et elle a duré jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, on a des occupations qui sont, des traces d'occupation qui sont liées à l'occupation laïque des lieux, quoi. Donc des fours à chaud, on a des traces de briqueterie, de briquetage, en fait, qui pour la fabrication de la bière, parce qu'on y a fabriqué de la bière. On a fabriqué de la chaux, et dans le four à chaud, on a aussi trouvé, évidemment, tout un tas de pierres calcaires de la moulurée du cloître du XIIIe qui sont parties pour faire de la chaux pour la construction à Brest, en fait.
Il y a des traces des raids vikings aussi, parce qu'elle a quand même connu une histoire agitée à des moments.
Oui, il y a des traces de destruction liées aux Normands. Donc elle a été pillée, brûlée.
Donc ça, c'était en combien?
En 913, en fait. Mm-hmm. Donc on le sait parce qu'il y a un texte, en fait, qui le signale. Nous, on n'aurait pas donné la date précise comme ça, mais par contre, on a des traces importantes avec des pièges de sépulture, des pièges de sépulture, et puis ensuite un cairn, en fait, avec une... En fait, les ossements ont été incinérés et mis dans un cairn. Et ça, c'est pas du tout un rite chrétien à l'époque. Et donc c'est les Normands, en fait, vraisemblablement, qui de par peur, sans doute, d'avoir réveillé des... On est quand même en 913, on est déjà au 10e siècle, hein, c'est assez longtemps après les premières incursions des Normands. Donc ils doivent se dire qu'on a quelques personnages saints qui pourraient... Ça serait peut-être pas bien d'avoir leur colère au-dessus de la tête, quoi. Donc oui. On leur rend un dernier hommage selon leur rite à eux, quoi.
Ils sont un peu christianisés malgré eux.
Je pense qu'ils sont superstitieux, quoi.
C'est ça, bah oui, c'est bien normal, hein. On est juste avant l'envie.
Nous risquons rien.
Au cas où. Et hein. Combien de fois elle a été détruite et reconstruite? Enfin, ou pas forcément détruite, mais reconstruite, cette abbaye?
C'est sans arrêt. En fait, les moines, ils n'arrêtent pas de construire. Hein. Donc on a des grandes reconstructions, on a une par siècle à peu près, quoi. Mais les travaux continuent, en fait.
Et puis la période peut-être la plus intéressante pour l'état aussi des vestiges qu'on a, c'est la période carolingienne, aux alentours de 800, c'est ça?
Alors, elle est très intéressante, mais non, il y a plein de périodes très intéressantes. Le 9e siècle, c'était particulier parce que quand Annie Bardel a montré qui a initié les fouilles, a montré qu'il y avait une abbaye carolingienne, qu'il y avait du carolingien en Bretagne, c'était très tôt, hein, en 78. Et en fait.
En 78. Alors, elle a dit ça en 1978.
Ouais,
oui, c'est ça.
Ça n'a pas été très bien accueilli.
Ah oui,
parce
on n'y croyait pas.
La Bretagne était indépendante, à l'écart de toutes les influences de l'Empire, etc.
Ah oui, donc on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait une abbaye.
Maintenant, c'est normal parce que tout le monde sait que. Enfin, voilà, maintenant, c'est acquis, quoi. Les rois bretons, c'est des rois subordonnés.
à Charlemagne et puis aux autres.
Oui, c'est ça. Ils prennent le titre de roi que quand on le leur donne, en fait. Hein. C'est pas du tout un... Et Nominoé, qui est le symbole de la révolte bretonne, en fait, initialement, c'est le modèle du comte carolingien. En fait.
Ah oui, donc, intéressant.
C'est des... Mais bon, en fait, il valait mieux, à la limite, je sais pas, pour beaucoup, je pense, se dire qu'on était des belliqueux plutôt que de se dire qu'on était inscrit dans tous les courants culturels et de pensée de l'Europe à l'époque. Quoi.
Et les courants religieux, voilà.
Oui, religieux et culturels. Oui.
Et quand même, elle a des beaux restes, cette partie carolingienne.
Elle a des très très beaux restes, en fait. Elle est extrêmement bien conservée. En fait.
Par rapport à d'autres sites européens.
Et puis l'avantage qu'on a, en fait, c'est que la fouille a été... Elle n'a pas été exhaustive, mais elle est assez complète. Et ça doit être une des visions les plus complètes qu'on ait sur une abbaye carolingienne.
Alors, cette fouille, justement, c'est quand même très long, hein, c'est ça? C'est combien d'années de fouille?
Alors, je me fais le compte, mais c'est beaucoup.
Je crois que c'est 25 ans, mais bon, non, c'est
un
plus.
Un petit peu plus, je crois, ouais, parce qu'il y a eu des années qui ne sont pas comptabilisées, en fait.
Ah oui.
Après.
Des années de bonus.
Des années bonus.
Et on n'a pas dit dès le départ, on va fouiller pendant 25 ans. Comment ça se passe, en fait, dans ces cas-là?
Alors, donc là, du coup, c'était pas moi, donc je parle de...
Oui, ouais, c'était Annie Barnier. Oui.
Et donc, elle a souhaité fouiller à Landévennec parce que le lieu lui plaisait, en fait, je pense. Hein. Et puis parce que le site lui parlait. Quoi.
Elle était médiéviste, en plus.
Elle était médiéviste, oui. On l'a déconseillé, en fait, hein, puisque le site avait été fouillé dans les années 60 et puis aussi au 19e siècle.
Ah oui, quand même.
Et donc, on lui disait, ben non, il n'en reste plus rien.
Il n'y a rien d'intéressant.
Voilà, il ne reste plus rien. Bon, elle est allée voir. Et puis, en fait, il se trouve que dans les années 60, ils ont beaucoup fouillé dans les traces de ceux du 19e siècle. Et qu'au 19e siècle, à part quelques dégâts... Relativisons, ce n'est pas des dégâts vraiment, puisque à l'époque, il n'y a pas d'archéologie constituée, donc il faut remettre en contexte.
Oui, ce n'est pas l'archéologie. Au XIXe siècle, ce n'est pas vraiment une science. On cherche des trésors, quoi, en fait.
Non, même pas. Là, du coup, ils recherchent, en fait, l'église de Saint-Guénolé.
Ah oui.
Et donc, il y a des dégâts pour nous, mais qui ne sont pas vraiment des dégâts. En fait, il y a le propriétaire de l'abbaye à l'époque, le comte de Chalut, c'est celui qui a sauvé l'abbaye. En fait, sans lui, c'est pour ça que je dis qu'il faut relativiser. En fait, il a sauvé ce qui restait de l'abbaye, mais il a aussi fouillé. Donc, on n'a pas, quand je dis des dégâts, c'est qu'on n'a pas de documentation. En fait, on a rien, quoi. Mais il a mis au jour un certain nombre de murs et de sol, un pavement, par exemple, en terre cuite du 10e siècle.
Mais il n'a rien détruit, enfin, c'est ça.
Il n'a rien détruit, en fait. Il s'est arrangé pour tout conserver. Et pour maintenir le monument dans un état, pour restaurer même certaines parties, en fait, pour éviter qu'il tombe.
Donc, quand Annie Barnel démarre, c'est en 1970,
c'est quel ? En 1978, oui.
D'accord. Ça appartient au département ? Non, c'est déjà au département
Ça appartient à la communauté bénédictine de Landévennec.
Et ça, c'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas. Ce sont les moines.
Mais qui finance les fouilles, ouais.
Alors, ils financent pas particulièrement les fouilles en tant que telles, quoi. Mais ils ont, ils nous ont mis à disposition un logement. Donc ça revient à une sorte de financement, parce que c'est vrai que dans le budget d'une fouille programmée, c'est pas négligeable, en fait. Donc ils sont intervenus pour assurer matériellement, en fait, la pour faciliter la tenue de la fouille, en fait.
Et sinon, c'est déjà le département qui dirige les fouilles, qui commandite les fouilles, quoi.
Alors, c'est le département, donc les fouilles, c'est le département, l'État, donc l'Université de Rennes, puisque Annie Bardel, elle est personnelle de l'Université de Rennes. Et puis, il y a eu un moment où ça a été aussi, pendant 3 ans, ça a été, la région aussi a participé.
Et donc, au départ, ils se sont dit, on va fouiller combien de temps? Ils ont déterminé un calendrier, un peu?
Non, je pense que les premières années, c'est toujours, on regarde ce qu'il y a. Quoi.
Ah,
sauf
oui.
que la première année, c'est les morceaux de l'abbaye, les morceaux de l'église carolingienne, et puis le sarcophage en bois du 9e siècle. Donc ça a démarré, en fait, comme ça, très fort, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc comme c'était très fort, on s'est dit donc, on va continuer, quoi.
Elle a remblayé, en fait. Oui, c'est ça. Elle a remblayé intégralement pour pouvoir ne sortir le sarcophage que quand il y aurait la possibilité de le restaurer. 7 ans. Donc ça a attendu 7 ans en fait, avant de pouvoir le fouiller vraiment. Quoi.
Et il n'y a pas eu d'interruption de financement, les fouilles ont toujours été financées en fait.
Oui, ouais. Parce que les résultats du coup, en fait, comme ça avait une portée internationale, ça a permis de maintenir en fait le chantier quoi, sur une aussi longue durée.
Oui, et quand est-ce que vous, Ronan Perenec, vous avez commencé à fouiller ?
Moi, je commence à Landévennec en 85.
Mmh. Voilà. Ah, comment on se greffe sur une fouille qui a déjà commencé ?
Dans mon cas, assez naturellement, hein, je ne sais pas. Enfin, ça s'est bien passé, en tout cas. Mmh. Voilà. Et puis, petit à petit, après, de fil en aiguille, ça arrive jusqu'à la co-direction. Quoi.
Oui, c'est ça. Et après, Annie, elle a fouillé jusqu'à sa retraite. Enfin, c'était. Les fouilles se sont arrêtées quand ? Alors, en 2000 ?
En fait, les fouilles, c'est 99-2000, mais avec des années. Alors, 2000 à 2002, il y a des grands travaux de restauration. Donc, on suit. En 2003, on a une fouille. 2007, et pareil aussi.
Ouais, donc il y a eu des petits épisodes de fouilles encore.
2014-2015 aussi, il y a une nouvelle campagne de restauration qu'on reçoit aussi parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sortent. Donc ça n'arrête, ça arrête pas d'un coup comme ça quoi.
Il pourrait y en avoir encore là, éventuellement.
Alors dans l'immédiat, c'est pas à l'ordre du jour.
Ouais.
Oui. Non, parce que c'est gros de. En fait, on en parlera plus tard peut-être, mais c'est c'est pas négligeable en fait de fouiller à Landévennec sans perdre des données en fait quoi. Donc il faut mettre en place pas mal des analyses, des prélèvements, des analyses. Enfin, il y a pas mal de choses à mettre en place.
Quoi. Ouais, c'est délicat, on va dire techniquement, on va en reparler. Ouais.
Ça prend du temps. Ouais.
Avant, je voulais juste savoir combien. Est-ce qu'on a une idée de combien est-ce que ça a été compté le nombre de publications qui sont associées aux fouilles.
Non, j'ai jamais compté non.
Ah ouais. Et ça serait de quel ordre? Une centaine,
25, 200. Les publications, nos publications à nous, je ne sais pas, 25-30 par là. Quoi.
Ouais.
Mais les publications sur Landévennec, oui, il y en a pas mal en fait.
Mmh. Parce que quand on trouve des trucs, on se contente. Enfin, ce n'est pas seulement les deux archéologues en place qui travaillent, c'est ça. Il y a d'autres archéologues qui sont sollicités ou des experts en général. Quoi.
Oui, il y a des. Oui, par exemple, un archéozoologue, des carpologues, enfin, il y a. Il y a d'autres personnes, effectivement, qui vont rentrer en dendrochronologues.
Alors, archéologue, donc c'est pour les restes animaux.
Carpologue, c'est pour les graines.
Les graines, oui. Dendrochronologue, c'est pour les bois.
C'est pour la datation des bois. Mmh. Xylologue, ça va être des traces d'outils sur les bois.
Ouais.
Il y a eu des essais de palynologie aussi.
C'est les pollens ?
Pour les pollens, ouais. Des études sur les mortiers de lion, donc sur le ciment de chaux. Quoi.
Ah, comment ça s'appelle ?
La granulométrie des mortiers, en fait. Bon. Il y a pas mal de choses, en fait. Hein.
Oh, ouais, c'est pareil, on n'a pas compté le nombre d'experts qui sont intervenus.
Il y a eu sur les parasites, des parasites intestinaux, enfin.
Les parasites intestinaux.
La parasitologie en fait. Mais c'est relativement récent parce que ça continue avec le musée.
C'est ça.
En fait, ça. Il y a des analyses qu'on n'avait pas pu faire, qu'on a essayé de faire et qu'on n'avait pas pu faire. Donc, par exemple, dans l'intérieur des vases, les analyses chimiques des contenants. Donc, ça garde la poterie garde la trace en fait des aliments qui ont été contenus dedans. Et donc, on avait essayé de faire ça dans un labo CNRS, mais ça n'avait pas marché puisque on n'était pas prioritaire du tout. C'était le Moyen-Âge, c'était plus récent. Donc,
ah ouais.
Ça se focalisait plutôt sur des périodes anciennes. Quoi.
Ah oui, donc c'était plus pour des questions de moyens techniques.
Pas pour des questions de moyens, pour des questions de priorité de ceux qui faisaient les analyses. Quoi. Et ça s'est fait très, très longtemps après avec. Par le biais du musée, donc les prélèvements qu'on avait mis de côté, en fait, ils ont été passés dans le cadre d'une exposition du musée, en fait, avec un crowdfunding pour payer les analyses en fait.
Oui, puis il y a peut-être des techniques qu'on savait pas encore, qu'on maîtrisait pas encore. Enfin, voilà, ça a quand même bien progressé aussi. Je sais pas, je pense à tout ce qui est ADN. Enfin.
Alors, ça a progressé. Oui, ça a beaucoup progressé, puisque quand au début de la fouille, il n'y a pas absolument pas question d'analyse ADN.
Ah oui.
Et puis ensuite, il y a eu des poussées sur la. Enfin, on est arrivé sur. Pour prendre le cas de l'ADN, c'était possible. Ensuite, on nous a dit, mais non, c'est possible, mais vous les avez touchés les os, donc...
Contaminés.
Voilà, le truc s'est contaminé. Ensuite, ça a continué d'avancer, donc on nous a dit, ben non, on fait la différence maintenant entre l'ADN ancien et l'ADN récent, donc c'est redevenu possible, etc. Enfin, il y a des choses comme ça. Pour les charbons, les analyses radiocarbone, eh bien, maintenant, avec les accélérateurs de particules, on n'a plus besoin des mêmes quantités de charbon. Nous, on était, il nous fallait des quantités de charbon assez importantes par rapport à ce qu'on passe maintenant.
Oui.
Enfin, oui. Et donc, on passait pas forcément, on n'avait pas forcément les analyses pour tous les niveaux les plus sensibles, en fait, ceux où on aurait vraiment aimé avoir la datation. Mm. Il fallait trouver une stratégie pour être au plus proche, quoi.
Donc, des progrès techniques. Alors, il faut revenir quand même sur ces conditions de fouille qui font qu'aussi on a des vestiges exceptionnels. Enfin, c'est un milieu très humide, c'est ça ? Enfin, qu'est-ce que ça a de particulier comme terrain ?
En fait, c'est initialement un vallon traversé par un ruisseau qui se jette dans l'Aulne. Et c'est sur les bords de ce ruisseau que les premiers moines se sont implantés dans le vallon.
Quoi. Logique.
Donc, ils ont de l'eau, ils ont de l'eau potable, ils ont de quoi moudre, etc. Enfin, bon, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Et puis, au fil du temps, ça s'est un peu dégradé, les conditions de... Alors, nous, on situe ça plutôt au 10-11e, quoi. Et puisqu'on se retrouve avec le site qui est inondé. Et donc, on mettait ça initialement sur le dos des Normands, sur les destructions des Normands qui auraient occasionné des bouchages dans le système d'évacuation de l'eau. Puis ensuite, on s'est rendu compte que ben, peut-être pas. Et puis, de fil en aiguille, on arrive à... Alors, en parlant et en collaborant avec les chercheurs de l'UEM de Brest.
Ah oui.
On arrive parce qu'eux, ils ont aussi des programmes sur la RAD.
De géomorphologie, hein.
De géomorphologie.
Ça,
ouais. Alors, tout ce qu'on a, nous, c'est... ce qu'on a sur le site, nous, c'est des arrivées d'eau.
Donc il y a plus d'eau.
Qu'on n'explique pas. Donc okay. Nous, on se dit, bon, peut-être qu'il n'y a plus d'évacuation possible, peut-être qu'il y a plus de pluie, peut-être qu'ils ont défriché sur les pentes et qu'ils ont accéléré l'érosion et qu'il y a plus de... Donc on cherche un petit peu la solution. Et eux, ils ont des programmes sur la RAD d'ailleurs, et ils se rendent compte que il y a des tempêtes de submersion.
Aha.
Donc un peu ce qu'on a maintenant. Donc avec des précipitations extrêmement abondantes. Donc ce que nous, on se disait, ben, il y a peut-être une cause humaine. C'est une cause météorologique. Et puis, des grandes marées poussées par des grands vents qui ne permettent plus du tout aux eaux de s'écouler, et donc des inondations très fréquentes. Alors, à l'arrivée, nous, on voyait les traces d'inondations parce que les moines rehaussaient les niveaux de sol.
Ah oui. Mais ça a duré longtemps, ça ? Enfin...
Ça dure un petit moment, parce que ça commence... on a des traces de... avec des bois, en fait. On a des traces de plancher en 1007, on a des traces de l'âge en pierre, on a... Et puis on a un dallage vers 1025, un plancher vers 1025. On a des rehausses en fait qui vont jusqu'à 80 cm, 1 mètre de hauteur. Donc ça, on l'a parce que même si les remblais se sont tassés, quand les caniveaux passent dans les murs, nous on retrouve des caniveaux qui se sont effondrés le long d'un mur, mais la partie qui traversait le mur, elle est encore dans la maçonnerie du mur. Donc on se retrouve avec des caniveaux qui sont contre la maçonnerie, alors qu'on a le conduit qui est bien plus haut. Quoi.
Ah oui, et donc ça a duré quoi, une vingtaine d'années ou...
Et donc ça dure un petit moment, ça, en fait. Mmh. Et puis... et ensuite, ils ont tout rehaussé, et en fait, en drainant. Et donc, ils échappent en fait à l'inondation. Par contre, l'eau va remonter par capillarité régulièrement. Et donc, ils vont échapper tout le temps à l'eau. Donc, on a des stratigraphies extrêmement importantes puisqu'ils vont tout le temps rehausser.
Et il y a eu un changement climatique, hein, on ne sait pas d'où ça vient, ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les géomorphologues?
Oui, c'est des cycles un peu comme on traverse maintenant, de tempêtes de submersion importantes. C'est-à-dire que le site du Loch à Landévennec, les sillons seraient créés au XIe siècle. En fait, il y a en tout cas un des sillons qui est créé au XIe à la suite de ces tempêtes-là.
Et après, ça a régressé ou non? C'est toujours resté comme
après, ça?
Après,
ça s'est calmé, oui.
Ah ouais, quand même. Est-ce que ça va se calmer pour nous? C'est pas sûr.
Je ne suis pas climatologue.
Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est de la climatologie. Donc, ça fait que pour les archéologues, bon, c'est pénible, j'imagine, parce qu'on patauge tout le temps quand on fait des fouilles, mais en revanche, ça permet une conservation des objets, en bois notamment. Enfin,
Il y a une conservation de tous les restes végétaux.
Organiques,
ouais. Oui, pas que végétaux, organiques. Mais on peut trouver donc des pièces de bois, donc on en avait quand même énormément. Donc ça va des poutres de 4,50 m de longueur à des brindilles, à des fagots, enfin des petites brindilles ou à des fougères, des plantes.
Petites pommes.
Des pommes. Des pommes entières, oui, des momies de pommes, des mousses, des feuilles, qui sont des feuilles du 7e siècle qu'ils ont conservées, mais du raisin, enfin des raisins, tout un tas de choses. Quoi.
Ouais. C'est pour ça qu'on a pu savoir ce que cultivaient les moines, ce qu'ils mangeaient.
On a les graines, on a un peu tout. Quoi.
Ouais.
Par contre, évidemment, c'est très pénible, les conditions de fouille sont pénibles.
Ouais. Ah ouais. Et il faut mettre en place des outils ou des équipements particuliers
Pour la fouille
ouais.
Oui, ouais, petit à petit, ouais, ça vient. Mais ça démarre un peu. Ça a démarré un peu en bricolant, j'allais dire, hein. Et puis ça se, y a des limites, hein, au bricolage. Donc petit à petit, on a investi dans des pompes, dans des mini pompes de bateau, enfin dans des. Donc ça allait de, on avait une gamme qui allait de la pompe immergée à la mini pompe de bateau, ensuite à des écopes, des éponges. Voilà.
Ah oui.
Les serpillères pour garder les bois humides.
Des pompes.
Parce qu'il ne faut pas qu'ils sèchent non plus. Ouais. Une fois qu'on les met au jour.
Et pour l'histoire du sarcophage, en fait, qu'est-ce qu'il fallait attendre? Il fallait quelque chose en particulier pour pouvoir le sortir?
Il faut un financement, déjà.
Déjà, oui.
Ça doit être là, une pièce unique, il faut un financement. Et puis, il n'y avait pas d'équipement assez long. Donc, il a été lyophilisé. Hein. C'est-à-dire qu'on injecte pendant. Alors, la technique, c'est on le fait baigner dans des bains de produits chimiques qui vont remplacer l'eau dans les fibres du bois.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas le tout de le sortir, mais après, il faut le conserver.
Il est complètement gorgé d'eau, donc en fait, si on le laisse à l'air libre, il va sécher, fissurer de partout, et puis se désagréger au bout d'un moment. Quoi. Et donc, la résine qu'on met dedans, après, elle est... on lyophilise en fait et ça garde en fait la trace du bois. Alors c'est une des solutions, mais c'est celle qui a été retenue parce que c'est celle qui permet de garder le plus l'aspect du bois. Et il n'y avait pas l'équipement en fait assez long qui permettait de passer un sarcophage entier.
Ah oui.
Et donc ça voilà.
Il a fallu fabriquer.
Il a été fabriqué pour des pirogues néolithiques, je crois.
Ah bon. D'accord. Pas spécialement pour le sarcophage de Landévennec.
Particulièrement pour nous. Ah ouais. Non.
Mais il fallait attendre.
Mais il fallait attendre voilà les financements et le matériel possible en fait qui permettait ça. Quoi.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que les objets qui ont été trouvés à Landévennec sont à Landévennec, sont conservés à Landévennec.
Ils sont conservés à Landévennec.
Ouais. Donc ça c'est vraiment c'est assez exceptionnel aussi. Hein.
Oui c'est bien parce que il y a un musée qui
valorise les collections déjà.
Qui valorise les collections et donc il se sert à la fois des collections, des objets, des beaux objets en fait, et de ce qui a été mis au jour, qui n'a pas forcément intégré les réserves, c'est un musée de France, hein, qui n'a pas forcément intégré la collection musée de France, mais qui est considéré dans ce qu'on appelle une collection d'études, c'est-à-dire ça peut être les branchages, les brindilles, les mortiers de Lyon, des murs, enfin les ciments, tous les ciments, enfin tout un tas de briqueterie, de choses comme ça, qui ont, suivant le discours qui est tenue ont un sens en fait. Quoi.
Mmh. Et donc il y a des chercheurs de partout en Europe qui peuvent venir à Landévennec examiner des fougères parce qu'ils font ils étudient les fougères, non?
Alors c'est plus compliqué que ça parce qu'on n'a pas forcément les fougères sont pas forcément sorties comme ça. J'ai fait des prélèvements de tous les niveaux, dans énormément de niveaux gorgés d'eau en fait de prélèvements de sédiments humides, donc ils sont conservés en sac sous vide, donc ils constituent une banque de données donc à la fois pour les végétaux ou pour les insectes ou pour les graines ou voilà. Mais oui, ça reste un échantillonnage. Quoi.
Ouais. Oui, d'accord. On ne peut pas l'étudier à fond.
On peut l'étudier, mais il y a eu des essais pour les insectes en entomologie, mais il y a tellement d'insectes que en fait, ça avait été abandonné.
Ouais, je comprends. Bon, eh ben, on va devoir s'arrêter là parce que c'est déjà la fin de l'émission. Donc ça veut dire qu'on en fera d'autres parce qu'on n'a pas trop parlé des découvertes. C'est vrai, on ne s'est pas étendu sur le sujet. Voilà, enfin bon. Donc on reviendra bien sûr à l'ancienne abbaye de Landévennec et on reviendra à d'autres émissions aussi avec le Centre départemental d'archéologie. Merci beaucoup Renan. À bientôt.
Au revoir.